Un ami est venu me voir il y a quelques temps, que j'avais connu au séminaire, mais qui avait dû quitter le séminaire, on ne l'avait pas gardé, sans doute on ne le trouvait pas assez intelligent, c'était ma grande tristesse. Et puis ensuite, il avait péniblement trouvé toutes sortes de petits boulots, vous savez, comme le séminaire comme référence sur un CV, c'est moyen. Et puis il est venu me voir avec une idée, l'idée de monter un business, de créer une société d'import-export, comme on dit, de statues religieuses, d'objets liturgiques qui auraient été fabriqués à bas prix, à bas coût dans les pays pauvres et vendus richement dans les pays riches. C'est la pratique habituelle. Mais outre le fait qu'il ne connaissait pas grand-chose au commerce, qu'il ne disposait d'aucun circuit de désapprobation, de distribution, je lui ai donné la raison de ma perplexité. Je lui ai dit, mon pauvre ami, tu as un handicap insurmontable, tu n'aimes pas l'argent. C'est une bonne question à se poser, ça. Est-ce que tu aimes l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? Ça existe, ça, l'amour d'argent. L'amour d'argent s'appelle une passion, ça n'a pas de valeur morale en soi. Ça n'a pas de valeur morale en soi, on peut avoir toutes sortes d'attirances et variables d'une personne à une autre. On peut se demander d'où ça vient, est-ce que c'est parce qu'on a manqué petit qu'on veut se rattraper? Est-ce qu'au contraire c'est parce qu'on en a eu beaucoup petit et qu'on veut le garder? Ça, on ne peut pas le savoir. C'est d'ailleurs, pour la pauvreté dans l'Église, la pauvreté qu'on appelle évangélique, il en va exactement comme de la chasteté. Est-ce que c'est plus facile d'être chaste qu'on l'a toujours été? Ou au contraire quand on en est revenu? Allez savoir. L'amour de l'argent n'est pas un péché. Il se manifeste de façon... Il est au plus une tentation. Une tentation justement de lui accorder trop d'importance, de voir toute la vie à travers cela, de se manifester de façon très extérieure dans l'amour des belles choses, les beaux vêtements, les belles chaussures, les belles montres, voire même aussi les beaux tableaux, un amour du beau. Mais beau, ici, ça veut dire cher. Que les autres ne peuvent pas se payer, les pauvres ne peuvent pas se payer, et qu'ils leur fassent envie. Une ancienne catéchumène de la paroisse, qui travaille maintenant comme gouvernante chez des milliardaires, c'est super nanny, super bien payée, super exploitée. Elle s'est fait embaucher chez un oligarque, vous pouvez imaginer une des nombreuses maisons, un appartement, évidemment truffé de caméras vidéo, toutes sortes de systèmes de surveillance, parce que c'est ça le problème de l'argent, il faut quand même pouvoir le garder, le protéger. Et il lui a posé une question inouïe, il lui a dit, tout ce que nous avons là, tout ce que nous possédons, ça vous fait envie? On peut aimer l'argent pour le pouvoir que ça donne, potentiellement, ou même en acte, qu'on le dépense ou non. J'avais lu l'année dernière, ou il y a 2 ans, dans les faits divers, il y avait un curé qui s'était fait arrêter, qui avait détourné quelques centaines de milliers d'euros. Bon. Il avait ouvert 16 comptes en banque. Quand même pas très discret, ça. Il voulait probablement pas le garder chez lui. Enfin, 16 comptes en banque. Il devait s'inquiéter pour ses vieux jours. Oublier surtout, il avait oublié le psaume, il y a un très beau psaume 48 qui dit « L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat. » L'amour de l'argent, ce n'est pas un péché. Ça peut être un moteur, ça peut être une motivation, ça peut même être dans certains cas une nécessité professionnelle. Dans d'autres cas, une incompatibilité. Est-ce que vous pensez que si on augmentait la rémunération des prêtres, on aurait davantage de vocations? On peut se poser la question. On cherche à les marier, il faut d'abord leur donner de l'argent. Dans l'Évangile, ce qu'on lit, c'est que les scribes et les pharisiens, dont on sait qu'ils avaient beaucoup de prestige, ça tenait en grande partie aux moyens financiers dont ils disposaient. Leur train de vie, le texte dit, leurs vêtements d'apparat. J'ai connu un confrère, un prêtre, auteur de livres à succès, qui était toujours en pantalon de cuir et cabriolet rouge. Sa mission, c'était d'évangéliser l'air du temps. On peut aimer l'argent pour la sécurité que ça donne, l'accumuler, l'entasser, au cas où. Mais au cas où quoi? C'est ce que dit le psaume 48. Pourquoi craindre ceux qui s'appuient sur leur fortune, qui se vantent de leur grande richesse? Aussi cher qu'ils puissent payer, toute vie doit finir. Aussi cher, autant d'argent dont on dispose, toute vie doit finir. Et voilà que dans l'Évangile, aujourd'hui, apparaît dans ce haut lieu de l'argent et de la richesse qu'était le temple de Jérusalem. Nous avions vendredi la fête de la dédicace de la basilique du Latran avec l'Évangile de l'expulsion des vendeurs du temple. Beaucoup d'argent dans le temple, mais surtout des magnificences, une somptueux. Ce haut lieu de la richesse et de l'argent apparaît une pauvre veuve, une indigente. Une indigente, le mot est vieillot, et on imagine que la personne était également assez âgée. Mais une pauvre veuve, on imagine aussi que l'un a entraîné l'autre. Le veuvage, la pauvreté, qu'en perdant son mari, elle a perdu les moyens dont elle disposait. Jésus la regarde. Jésus est Dieu. Il sait ce qu'il y a en chacun de nous. Parce que dans ce domaine de l'argent et de la pauvreté, les apparences sont assez trompeuses. Même souvent trompeuses. Moi, dans mon enfance, j'ai connu un producteur de cinéma qui avait un hôtel particulier. Il avait dans son salon un ascenseur pour aller dans sa chambre. Il avait une somptueuse voiture, mais il n'avait pas de quoi se payer un ticket de métro. C'est ça, à l'époque, les producteurs de cinéma. Non, lui, il sait, Jésus sait que cette femme est vraiment pauvre. Qu'elle met dans le trésor tout ce qu'elle a pour vivre. Et la question, c'est de dire, mais pourquoi elle fait ça? À Dieu va? Peut-être en souvenir de ce qu'on a entendu dans la première lecture, cette veuve de Sarepta, qui rentre préparer pour elle et pour son fils tout ce qui lui reste. Allez, on le mange et ensuite on meurt. Mais pourquoi justement elle ne fait pas ça? Pourquoi elle ne mange pas? Dimanche prochain, mes amis, nous vivrons la deuxième journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François. Ici, au moins une fois par mois, je dis la messe pour les SDF, pour les personnes de la rue. Et j'ai le choix, dans le missel pour les messes particulières, entre les prières de la messe pour ceux qui ont faim, et les prières de la messe pour ceux qui, les exilés, les réfugiés, ceux qui n'ont pas de logement. Ce sont les deux composantes de la pauvreté. Le choix souvent terrible entre dormir ou manger, entre un toit ou un repas. Et nous qui sommes, pour l'immense majorité d'entre nous, préservés de la misère, nous devons garder cela à l'esprit. Ce que nous vivons à la messe qui vient unifier les deux, un toit et un repas, l'Église, la maison du Père, et la messe, le pain de vie. Un toit et un repas, mais un toit et un repas et un sacrifice. Un sacrifice. Le pape François a prévenu les couples qui viennent se marier à l'Église, en disant, il a une formule un peu rude, il dit, attention, c'est pas une maison de location. Ça doit être votre maison. Et c'est pourquoi, c'est ce que nous leur disons, nous aussi, dans toutes les paroisses, la meilleure préparation au mariage, la meilleure préparation au sacrement, la meilleure préparation à la vie, c'est la messe le dimanche. Parce que pour communier à la messe, il faut que l'Église, avec un grand E, soit notre famille, et l'Église, avec un petit E, le bâtiment, soit notre maison. L'Église, grand E, notre famille, l'Église, petit E, notre maison. Dans l'Évangile, cette pauvre veuve ne représente pas la misère. Pour ça, nous avions, il y a deux dimanches, Bartimée, ce mendiant qu'on cherchait à faire taire. Cette pauvre veuve représente l'Église. Elle a quitté, en se mariant, sa famille d'origine. Elle a perdu, en perdant son mari, celle qu'il voulait, qu'il devait fonder ensemble. Elle représente l'Église qui a quitté l'une sans gagner l'autre. L'Église a quitté Israël, la terre promise, sans atteindre pour l'instant le ciel, la vie éternelle. Que lui reste-t-il pour vivre? Ces deux piécettes, en laquelle la tradition de l'Église a toujours reconnu les deux commandements de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. pour autant qu'on ne les garde pas dans notre poche, pour autant qu'on les fasse vivre. Qui sont les bénéficiaires de ce don qu'elle met dans le trésor? C'est Dieu. Dieu n'en a pas besoin. C'est pour elle? Non, c'est certainement pas pour elle. Quand on donne tout, on ne le fait pas pour soi. Quand on donne tout, on ne le fait pas pour soi. Les vrais bénéficiaires de ce don, c'est nous. C'est nous qui voyons des siècles après, mais qui sommes encore captivés aujourd'hui, fascinés, admiratifs, devant l'exemple qu'elle donne d'une telle confiance en Dieu. Une telle confiance en Dieu. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre.
Il y a, dans l'évangile, un peu plus loin, ce que dit Jésus lors de l'onction à Béthanie qui s'applique parfaitement à cette femme.
Partout où l'évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire.
Saint Jean de la Croix avait 3 ans quand son papa est mort. Tout petit, famille pauvre, tout petit, il doit travailler comme apprenti. Sa mère se saigne, fait des journées terribles pour faire vivre la famille. Ensuite, il travaille comme infirmier, il côtoie la souffrance qu'on peut imaginer de l'époque, tout en menant des études où il révèle des dons exceptionnels. À tel point qu'il est évidemment remarqué, il est envoyé à Salamanque parmi l'élite, il y est nommé préfet des études. Non seulement son intelligence, son travail, sa sensibilité hors du commun lui permet d'absorber, d'éponger tout ce qu'il reçoit, mais comme il l'enseignera après, en l'ordonnant à la connaissance de Dieu. Par ses talents, par son travail, il dépasse tous les autres, à tel point que, très jeune, à peine 20 ans, il est en mesure d'accéder à la prêtrise, à l'époque, et la prêtrise à l'époque, ça veut dire qu'il peut obtenir une cure, et surtout une rente. Une rente pour lui, pour sa famille, pour enfin soulager sa mère. Ça lui est possible. Il y renonce. Il y renonce parce que ce n'est pas là que Dieu l'appelle. Et il dit, il écrit ceci, « Quand vous vous arrêtez à quelque chose, vous cessez de vous abandonner au tout. » Quand vous arrêtez à quelque chose, vous cessez de vous abandonner au tout. Quand vous arrêtez à l'argent, vous cessez de vous abandonner à Dieu Tout-Puissant. Et pourtant, nous le savons bien, que l'amour de l'argent, ce n'est pas l'amour de la vie.